Dans cette série Géopodcast, la classe de terminale, suivant la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques du lycée des Horizons de Chazelles-sur-Lyon, va décrypter pour vous une série de conflits généralement peu évoqués dans les médias.
Le podcast du jour traitera de la guerre civile en Éthiopie. Ce pays frontalier du Soudan et de l'Érythrée se situe dans la corne de l'Afrique, au bord de la mer Rouge. Cet État connaît un début de développement économique malgré des conflits interétatiques récents avec son voisin frontalier l'Érythrée. L'État éthiopien devient même une puissance régionale et pèse à l'international, considéré comme le nouveau Bangladesh grâce à l'implantation de firmes transnationales et des investissements directs à l'étranger. Malgré son avancement, cette région est fragmentée en diverses ethnies et couvre de nombreuses tensions qui ont toujours été présentes sur le sol éthiopien. Le 3 novembre 2020, un conflit éclate entre le gouvernement éthiopien et une minorité ethnique marginalisée nommée le Tigré. Ce conflit est marqué par une immense violence qualifiée de crime de guerre, ayant déjà entraîné la mort de centaines de milliers de personnes. Tout commence en avril 2018 lorsque les ethnies Oromos et Amaras, majoritaires au sein de l'État, prennent le pouvoir en Éthiopie et placent à la tête du gouvernement Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien et également le prix Nobel de la paix. Cela va déplaire aux Tigréens, habitants d'une région située au nord de l'État, évincés du pouvoir par cette coalition politique. Par ailleurs, cette ethnie avait vu une partie de son territoire revenir à l'Érythrée à la suite d'un accord de paix en 2018, mettant fin à une guerre entre les deux États. Les Tigréens ont donc un goût amer, ils sont exclus du gouvernement du pays et leur territoire a été amputé au profit de l'État érythréen voisin. En 2020, des bases navales éthiopiennes situées au Tigré sont attaquées et le gouvernement en profite pour faire porter le chapeau aux Tigréens, ce qui leur donne un motif pour les affronter sur leur sol. Puis, le 5 novembre 2020, les forces de défense nationale éthiopiennes entrent au Tigré où de violents affrontements ont lieu. C'est le début de la guerre du Tigré, entraînant alors la mort de 600 000 personnes, qui sont principalement des civils.
Du côté tigréen, ces attaques renforcent une haine du gouvernement éthiopien et face à la violence du combat, de nombreuses personnes vont s'allier contre le gouvernement. Ces rebelles, parti radical du TPLF, vont former une armée et avoir la main mise sur le gouvernement éthiopien pendant un certain temps. Les jeunes tigréens voient cette lutte comme un enjeu vital face à la mort de leurs proches et la perte de leur territoire. De leur côté, les Éthiopiens veulent protéger le gouvernement et l'équilibre de l'État qui se développe et qui sort d'une guerre avec son voisin érythréen. Ils ne veulent pas de radicaux comme les Tigréens au pouvoir, qu'ils qualifient même de terroristes. Sur les réseaux sociaux, Abiy Ahmed a annoncé qu'il allait, je cite, « mobiliser les forces armées et les mener au front », appelant les Éthiopiens à se lever et à se joindre au combat, chacun à son niveau, dans une forme de guerre totale, voyant alors les enjeux comme vitaux pour le pays. Le ministre éthiopien qualifie cette guerre, je cite, « d'une affaire grandiose de vie ou de mort ». Le pays entre alors dans une logique de brouillard de la guerre, qui les amène à commettre toutes sortes d'atrocités qui auront comme conséquence un lourd impact sur les civils. Notamment, on peut retenir les viols de masse commis par les armées éthiopiennes et érythréennes envers les femmes et filles tigréennes. Selon Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, je cite, « La gravité et l'ampleur des infractions de nature sexuelle qui ont été commises sont particulièrement choquantes et ces actes constituent des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. » Au cours de cette guerre, les Éthiopiens, avec le soutien d'autres États, commettent de nombreux crimes de guerre de type génocidaire.
Le gouvernement éthiopien sait s'entourer d'alliés étrangers et attiser la tension de l'opinion publique en sa faveur. Des pays comme les Émirats Arabes Unis, l'Iran, la Turquie, la Chine et l'Israël profitent de ce conflit pour affirmer leur puissance géopolitique à une échelle plus globale. Ils fournissent des quantités d'armes importantes au gouvernement éthiopien et notamment de nouvelles armes très qualifiées, les drones. Cette arme donne un grand avantage à l'armée éthiopienne. Cependant, elle représente un réel danger pour l'armée tigréenne. L'Érythrée, un autre grand allié, s'implique de façon plus concrète dans le conflit en envoyant sur place l'armée érythréenne. En effet, maintenant que le Tigré fait partie de leur territoire, il est dans leur avantage que les Tigréens soient soumis au gouvernement éthiopien et ne fassent pas de vagues. Les troupes érythréennes participent donc à de nombreux crimes de guerre. Finalement, grâce à ces alliances, Abiy Ahmed a transformé ce conflit local en conflit beaucoup plus global, voire même multiscalaire. Des organisations internationales, comme l'ONU et l'Union européenne, tentent tant bien que mal de soutenir les Tigréens. Lors de la crise humanitaire et vitale, ils décident d'envoyer des ravitaillements alimentaires et des soins humanitaires. Les États-Unis font de même, mais ils se voient obligés d'arrêter leurs aides car elles sont interceptées par l'Érythrée. Ils profitent aussi de leur grande puissance pour faire pression sur la Turquie pour qu'elle cesse enfin de fournir des drones à l'Éthiopie. Toutefois, leur rapport avec le gouvernement éthiopien évolue quand Abiy Ahmed entreprend de nouvelles mesures pour une justice réparatrice, notamment en créant la justice transitionnelle. Cette justice a pour but de pousser les bourreaux à regretter et reconnaître leurs actes auprès des victimes lors d'un procès, pour qu'ils puissent enfin cohabiter. Les États-Unis reviennent alors sur leur décision et retirent toutes les poursuites contre l'Éthiopie pour violation des droits humains. De plus, l'Union européenne n'a toujours pas tenu sa promesse sur le combat contre l'impunité.
C'est finalement pratiquement 2 ans jour pour jour, le 2 novembre 2022, que les représentants de l'Éthiopie et du TPLF ont signé des accords de paix dans la capitale de l'Afrique du Sud, leur imposant un cessez-le-feu immédiat. Cependant, durant ces 10 jours de dialogue, l'Éthiopie avait conquis des régions du Tigré pour avoir l'avantage lors des négociations à Pretoria. Pouvons-nous dès lors parler de paix permanente ? Devons-nous craindre une reprise des conflictualités entre les deux parties belliqueux ? Rien n'est encore sûr. Les accords de paix prévoyaient de rétablir l'accès aux biens de première nécessité tels que l'électricité ou encore les télécommunications. Toutefois, l'État reste extrêmement fragilisé par les causes militaires et humaines du conflit. Malgré la présence des forces gouvernementales dans la capitale de la région tigréenne Malakai, on peut toujours craindre des représailles comme ça a déjà été le cas en août 2022. Les organisations internationales ont quant à elles continué d'envoyer des vivres aux populations civiles au Tigré, leur passage étant facilité par les accords. Cependant, ces mêmes institutions internationales ne font pas qu'intervenir sur le terrain dans le but d'aider les populations. En effet, en 2021, l'ONU s'était emparée de ce conflit, enquêtant sur les possibilités de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Ces recherches avaient vite cessé sur le terrain, laissant le gouvernement et les forces tigréennes poursuivre dès lors leurs massacres toujours plus violents et des viols toujours plus nombreux. Si elles continuent à médiatiser ces violences, la justice n'est pour autant toujours pas en marche. L'Éthiopie est encore un état failli où de nombreux efforts restent encore à faire pour permettre aux différentes ethnies d'enfin cohabiter. Malgré l'aide internationale et les différents accords, l'Éthiopie reste extrêmement fragilisée par la suite du conflit, tant au niveau économique que mémoriel. En effet, comment cohabiter quand des crimes de masse sont restés impunis ?
Merci pour votre attention et n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes de ce podcast réalisé par les élèves de l'enseignement de spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques du lycée des Horizons de Chazelles-sur-Lyon.